Les Canuts, deuxième partie, chapitre 7. Une heure de l'après-midi. Le soleil de juin tombait d'aplomb. Sur les pavés brûlants, place de la Comédie, dans le va-et-vient des fiacres éclaboussés de lumière, La Chapelle et Martinon flânaient, la sache au dos. Ils venaient de rendre leurs pièces et marchaient au hasard, l'esprit tranquille, l'argent en poche, sans hâte de rentrer. « Tiens, le père Bouvet !» fit La Chapelle. Le vieux trottinait, tête baissée, la canne à la main. Ils allèrent à lui. Comment ? Il ne les reconnaissait plus maintenant ? Levant le nez, il les regarda derrière ses lunettes bleues et, après une poignée de main, s'exclama. « Ah ! C'est qu'il n'avait plus ses yeux d'autrefois. Puis ce soleil aveuglant. « Monsieur Bouvet, on va boire un verre, pour trinquer. Il fait assez chaud pour ça. » Martinon le prit par le bras. Lui résistait. Ce serait pour une autre fois, il était pressé. « Allons, allons, vous n'êtes pas si pressé. Tenez, chez Badi, là, tout près, à deux pas. Un verre sur le pouce. » Ils l'entraînèrent dans une allée de traverse. « Enfin, on est obligé de vous céder. Avec deux gaillards comme vous, pas moyen de se défendre. » Bon gré, mal gré, le père Bouvet emboîta le pas jusqu'au cabaret de la rue Désirée. La Chapelle ouvrit et le poussa dans la petite salle basse. Prenez garde à la marche, descendez d'un pas. Une seule table était occupée. Des rendeurs de teinturiers, rouges et suants de leurs corvées, buvaient silencieusement. Eh bien, mes amis, nasilla le vieil instituteur, s'accoudant. « Êtes-vous satisfait ? Comment va le métier ?»« Pfff !» dit La Chapelle. « On gagne tout juste de quoi manger du pain, et seulement les bons ouvriers. Ça ne va guère mieux qu'avant les journées de novembre. »« Oui, » observa Martinon. « Il y a eu beaucoup de sang versé, en pure perte. »« Ah ! Vous le reconnaissez donc enfin ?» s'écria le père Bouvet, assujettissant ses lunettes. « Je vous l'ai prédit à l'époque. Je l'ai crié sur les toits à qui voulait l'entendre. Personne ne m'écoutait. Votre révolte ne vous a mené à rien, parce que ce n'était pas une grande idée qui vous faisait agir. » Le cabaretier apporta des verres et une bouteille. Martinon versa à boire. « À votre santé, monsieur Bouvet. » « À la vôtre, mes amis. Voilà du vin frais. On s'aperçoit qu'il sort de la cave. » Après un claquement de langue, l'ancien instituteur continua. « L'insurrection de novembre n'a été qu'une lutte industrielle. Lutte de l'ouvrier contre le patron, du prolétaire contre le capitaliste. Lorsque des républicains sont venus vous parler de renverser la royauté, vous avez accepté les armes qu'ils vous offraient, mais vous ne les avez pas écoutés. Vous n'avez pas servi leur cause. Voyons, est-ce que je mens ?»«
C'est vrai, » répondit Martinon. « Mais pourquoi aurions-nous attaqué le gouvernement ? Nous n'avions pas de grief contre lui. »«
Ah, c'est là que je vais vous prendre. Vous changerez un jour d'avis, croyez-moi. Depuis novembre, la situation s'est modifiée considérablement. » La question industrielle et la question politique, qui ont marché longtemps sur deux lignes parallèles, convergent aujourd'hui sensiblement et se réuniront dans un temps prochain. C'est facile à expliquer. Il tira son mouchoir à carreaux et se moucha bruyamment pour donner le temps de sortir au buveur de la table voisine qui s'était levé. Quand il n'eut plus d'oreille indiscrète à redouter, il poursuivit de sa voix âpre. « Est-il avec vous ou contre vous, le pouvoir qui a renforcé la garnison, bâti les forts La Motte et Montessuie, réparé et mis en état de défense les anciens forts. Les fabricants vous feront passer par où ils voudront quand on aura rendu impossible le retour d'une émeute. Mais patience, les ouvriers ne tarderont pas à se méfier d'abord, puis à haïr. Peu à peu, ils s'accoutumeront à associer dans une commune aversion le gouvernement avec leurs ennemis naturels, les fabricants. Et quand la République viendra de nouveau planter son drapeau à côté de celui des travailleurs, ils la salueront avec enthousiasme.
« Je ne vois pas comment ça pourrait se produire, » dit Martinon incrédule. Le père Bouvet bondit sur sa chaise.
« Tu ne comprends pas, Martinon, toi qui es intelligent. Tu sembles ignorer, » dit-il plus bas. « Toi, tisseur de profession, que depuis 1828, il existe parmi les ouvriers en soi deux associations secrètes, celle des mutuellistes et celle des ferrandiniers, l'une groupant les chefs d'atelier, l'autre les compagnons.
« je sais, » interrompit Martinon. « Moi-même, je suis mutuelliste. »«
Eh bien, tu ne vois pas la puissance de leur organisation ? Chaque loge de 20 membres, nommant 2 délégués pour constituer une loge centrale, les présidents des loges centrales composant à leur tour le conseil exécutif, qui peut prononcer la suspension générale du travail. C'est un immense réseau qui enserre toute l'industrie lyonnaise et peut en un jour frapper d'interdit 50 000 ouvriers, en faire au besoin 50 000 combattants.
« Je ne suis pas de votre avis, » repartit Martinon. « Nos associations n'ont des sociétés secrètes que la forme. Ce ne sont en réalité que des sociétés de secours mutuels. Leur but est de s'entraider et d'empêcher la décroissance des salaires. Rien de plus. Ce but se résume dans la devise des mutuellistes. Améliorer le sort du producteur.
« Eh oui, » dit La Chapelle.
« Ces deux sociétés, toujours unies par les mêmes intérêts, sont uniquement industrielles. La meilleure preuve, c'est que les discussions politiques y sont interdites. »«
Aveugle ! Aveugle ! » s'écria le père Bouvet. « Heureusement, les chefs du mouvement voient plus clair que vous. Ils ont bien su comprendre, eux, quel parti merveilleux ils pouvaient tirer d'une insurrection ouvrière. »
D'un coup d'œil circulaire, il s'assura qu'ils étaient toujours seuls et continua plus bas.
« Des émissaires viennent sans cesse à Lyon organiser les moyens d'attaque contre le gouvernement. Ah, notre population ouvrière leur offre un trop puissant auxiliaire pour qu'ils négligent de l'utiliser. »
Il porta son verre à ses lèvres et le reposa sur la table sans avoir bu.
« Vous n'avez pas deviné, » reprit-il, « ce que signifiaient ces banquets, ces réunions, ces journaux qu'on crie partout. Croyez-moi, le Parti républicain est fortement constitué, grâce aux associations secrètes grandies peu à peu dans l'ombre. D'abord, celle du progrès, puis celle des amis du peuple et des hommes libres. La dernière fondée, celle des droits de l'homme, déjà la plus forte, englobe toutes les autres. Par la vigoureuse propagande de son comité de résistance, elle étend ses ramifications non seulement sur Lyon, mais encore sur les villes voisines. »
Ennuyé, Martinon secouait la cendre de sa pipe. Dès qu'il put placer un mot, « Je ne nie pas, » reprit-il, « les progrès du Parti républicain, mais ce que je puis affirmer, c'est que les ouvriers en soi s'occupent peu de politique et échappent encore, en grande majorité, à l'action de vos comités secrets.
Ils y arriveront, je te le prédis, et ce sera peut-être plus tôt qu'on ne le pense. Vous ne vous doutez pas de l'activité que déploient les chefs du mouvement. Il y a peu de jours, on envoyait ici Cavaignac, un énergique républicain, pour examiner les ressources dont le parti peut disposer à Lyon. En même temps, se formait un comité invisible qui s'appuie sur les droits de l'homme et dont le but est d'organiser la propagande parmi les mutualistes et les férandiniers.
« Ils peuvent venir me trouver. Je les recevrai bien, » fit Martinon agacé.
« Qu'importe à nous autres la forme du gouvernement. Nous ne demandons qu'à travailler, et pour travailler dans notre parti, il faut de la prospérité.
Et pour qu'il y ait de la prospérité, il faut avant tout du calme.
Ouais, votre grande idée, votre révolution, commencera toujours par une émeute, et nous n'avons pas envie d'en faire une seconde. »
« Oui, » conclut la Chapelle d'un air détaché. « Pour ce qu'on y a gagné, bon Dieu. Voyez-vous, monsieur Bouvet, les révolutions, ce n'est jamais l'ouvrier qui en profite. »
Le vieux les considéra de ses petits yeux vifs. Puis, haussant les épaules, il se leva.
« Tenez, » cria-t-il, « je m'en vais. Je perds mon temps avec de pareils entêtés. Des cervelles d'inexitu, aures habent et non audiunt. »
Il était allé jusqu'à la porte. Mais, se ravisant, il revint à eux et, leur tendant la main,
« Après tout, je m'en fiche, moi. Je suis un vieux philosophe, un vieil idéologue, comme disait ce monstre de Bonaparte. »«
Un vieux fanatique !» ajouta Martinon avec un bruyant éclat de rire.
« Mettons, vieux fanatique si tu veux. Il est clair que je n'ai rien à attendre de l'avenir. J'ai fait mon temps et il a été plus dur encore que le vôtre. Mais vous verrez. Vous verrez, un jour, si j'avais raison.
Au revoir, incrédule.
Hey, où allez-vous donc si vite?
Le long du quai, fouillé dans les tas de bouquins.
C'est ma vie, ça. Je n'ai presque plus rien à faire. Étudier, toujours étudier, moi qui ai appris à lire à toute la Croix-Rousse. Ça me console des sottises de ce temps. Et aussi,
ajouta-t-il mélancoliquement,
du cruel isolement auquel je n'ai jamais su m'habituer. Mais, bof, je suis au bout du rouleau, comme vous dites. Adieu, mes amis.
Au revoir, monsieur Bouvet.
Le vieil instituteur s'éloigna, à petits pas pressés, frappant le pavé de son bâton.
Pauvre vieux, fit la Chapelle. S'il avait trouvé une brave femme, s'il voyait grandir des enfants autour de lui, il ne serait pas si enragé.
Martinon s'était levé. À son tour,
« Tu me fais penser que j'ai des commissions pour ma bourgeoise. Allons, viens-tu? Assez flâner comme ça !»